Bienvenue dans Alter Echo, l'émission qui dit tout haut ce que je pense tout bas. Olivier au micro. Alter Echo, c'est l'émission qui passe tous les mercredis soirs à 22h sur Radio Campus, qui est rediffusée tous les vendredis à 14h, que vous pouvez écouter sur Internet via le site de Radio Campus en direct et en différé également. Retrouvez les textes et les sons sur le site Internet d'Alter Echo, www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Dans l'émission d'aujourd'hui, c'est surtout l'actualité du collectif contre les expulsions qui retiendra notre attention, entre une action mouvementée au cabinet du ministre Van de Lanotte, une série de procès à venir et la création d'un comité de soutien aux inculpés. Il y a pas mal de choses à en dire et nous y consacrerons tout l'espace nécessaire. Pour le reste, nous examinerons encore le discours sur la mondialisation de nos deux grands quotidiens à travers la fin du procès des médicaments génériques en Afrique du Sud d'une part et le sommet des Amériques à Québec de l'autre. Désolé de vous décevoir d'avance, mais le soir et la libre ne nous réservent pas de grandes surprises. Le collectif contre les expulsions. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans cette émission, notamment lors de l'incarcération de Pascal Marchand. Pour des faits mineurs, lors d'une manifestation de protestation contre l'expulsion collective de 74 Tziganes, il avait été jeté en prison et avait subi les mauvais traitements des flics et des matons pendant une dizaine de jours, avant d'être libéré lors d'une audience suivie au palais de justice par plusieurs centaines de sympathisants. Il avait été relâché, mais son procès sur le fond doit encore avoir lieu et la date est fixée au 4 mai prochain. 17 autres militants du collectif sont également poursuivis pour des faits semblables, commis lors de diverses manifestations contre la politique gouvernementale en matière de réfugiés et de centres fermés, et leurs procès aussi auront lieu prochainement. Mais pour prendre les choses dans l'ordre chronologique, les premiers à comparaître hier mardi, c'étaient les gendarmes qui avaient étouffé Semira Adamou, une réfugiée nigérienne de 20 ans, lors d'une tentative de déportation. Ils comparaissaient hier devant la chambre du conseil qui a reporté l'affaire au 18 mai. Mais d'ores et déjà, on a appris que le parquet ne demande plus la poursuite des trois gendarmes pour infraction à la loi sur le racisme aux grands dames de la Ligue des droits de l'homme qui s'était constituée partie civile dans cette affaire. Le seul chef d'accusation qui reste, c'est coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tout indique donc que la justice saura se montrer indulgente avec les gardiens de la paix ou les représentants de l'ordre, comme vous préférez. Il faut dire que tout comme de nombreux bourreaux nazis, les trois agents ne faisaient qu'appliquer, avec un excès de zèle, il est vrai, des directives, des procédures et des ordres qui venaient d'un échelon supérieur. La procédure du coussin, par exemple, qui est la cause directe de la mort de Semira Adamou. Cette procédure stipule que si un candidat réfugié débouté tente de résister à sa déportation, les gendarmes qu'il tient en respect ont le droit de lui appliquer un coussin sur la figure pour le calmer. Il n'a qu'à respirer par les oreilles. Cette fameuse procédure du coussin avait été rétablie par Johan Van de Lanotte lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et ce dernier est donc politiquement responsable de la mort de Semira Adamou. Au départ de la procédure, d'ailleurs, le parquet avait envisagé de poursuivre les responsables des échelons supérieurs, à savoir Johan Van de Lanotte, mais aussi Louis Tobac, qui était à l'époque des faits ministre de l'Intérieur. Finalement, le parquet a renoncé à ce projet un peu trop audacieux pour lui. En vue du passage des gendarmes devant la Chambre du Conseil, le collectif contre les expulsions a tenu à protester vendredi dernier contre l'abandon des poursuites contre les autres responsables. Pour le collectif, il faut non seulement poursuivre les deux ministres, mais aussi le pilote de l'avion Sabena, à bord duquel Semira avait trouvé la mort. Le pilote est seul maître à bord de son avion et il a le droit de refuser de transporter un réfugié qui se fait déporter, a fortiori s'il estime que la violence qui est déployée à cette occasion peut mettre en danger la sécurité du vol. Plusieurs pilotes l'ont déjà fait et plusieurs pilotes refusent même systématiquement de prendre le départ avec à bord un réfugié expulsé contre sa volonté. Ils estiment à juste titre que leur métier ne consiste pas à se rendre complice de déportations de réfugiés vers des pays qui ne leur veulent pas que du bien. Pour protester contre le fait que ce soit une fois de plus les lampistes qui se retrouvent devant la justice, une petite vingtaine de membres du collectif contre les expulsions sont allés occuper vendredi dernier le cabinet du ministre Van de Lanotte, qui est aujourd'hui ministre du Budget et de l'Intégration sociale. Arrivés tôt le matin, ils ont occupé les locaux du ministère pendant toute la matinée, après avoir déroulé sur la façade un calicot qui demandait justice pour Semira. Comme ils n'avaient pas l'air décidés à bouger de là, le procureur du roi, Benoît de Jemmeps, s'est rendu sur place pour négocier avec eux la levée de l'occupation. En échange d'une arrestation purement administrative et limitée dans le temps, ils ont accepté de lever le siège un peu après midi. Sur place, il y avait également Raph Kusters, journaliste professionnel, qui était là avec une caméra vidéo pour couvrir l'événement pour Indy Media. Pour lui, les choses ne se sont pas trop bien déroulées.
Moi, je suis arrivé, je pense, vers 8h20 à la rue Royale. Et puis, j'ai vu qu'on dépliait déjà le calicot à l'étage. J'ai filmé ça de la rue. J'ai continué à filmer puisque tout le temps, des véhicules arrivaient avec des policiers, des gendarmes. De ce jour, on va dire policiers fédéraux, je pense. Et puis un autre véhicule est arrivé avec un gendarme et un chien que j'ai suivi. Enfin, ils se sont dirigés vers l'entrée de cet immeuble où se passait donc l'occupation du cabinet Van de Lanotte. Je suis allé jusqu'à la porte d'entrée. J'ai un peu filmé par la vitre. Des fonctionnaires sont arrivés avec leurs mallettes. Je les ai suivis, personne ne m'a posé quoi que ce soit comme question, donc l'entrée était libre pour tout le monde. Je suis monté jusqu'à l'étage où j'ai même essayé de filmer dehors, donc par la fenêtre. Puis j'ai été interpellé par un BSR, je pense. J'ai dû montrer ma carte d'identité. Là, j'ai constaté que j'avais pas ma carte de presse avec moi. J'ai montré le carton immédiat. Déjà, une petite discussion a commencé à propos de cette carte de presse, soi-disant carte de presse. Ce BSR m'a fait mettre dehors. Sur le trottoir, donc dans la rue, j'ai pu récupérer ma carte d'identité et le carton immédiat. Et puis, en face, je suis rentré dans l'hôtel Astoria où j'ai voulu monter aussi à l'étage pour filmer donc à la même hauteur des activistes. De nouveau, une discussion avec un BSR, un autre BSR. De nouveau sur la validité de cette carte d'Indymedia. Il a dit que c'était une fausse carte de presse, qu'il n'y avait pas photo d'identité. Puis il est parti, lui il est monté, moi je suis de nouveau sorti. Et quand je sortais, je pense quatre ou cinq gendarmes ont sauté sur moi. Le BSR, le premier BSR, a pris ma caméra. Il a dit que j'étais arrêté administrativement. On m'a mis les menottes et on m'a évacué. Et cette arrestation s'est passée sans avertissement, rien du tout. J'ai même pas eu le temps de chercher mes documents.
En bref, au poste de police, comment ça s'est passé? Tu as été bien traité, qu'est-ce qui a été fait?
Bien traité, oui, mais là, ça, je pense que les pressions se font surtout sur le niveau psychologique. On fait on fait constamment des intimidations, on fait des insinuations. On a insinué que moi j'étais aussi un des activistes et que ma carte de presse était faux, donc un autre incident s'est produit lorsque j'ai dû me faire photographier. Ce que j'ai en première instance refusé. On a essayé de me coller contre le mur avec quatre gendarmes. J'ai encore refusé. On m'a mis à part dans un cachot parce qu'avant j'étais avec tous les autres activistes. On était une quinzaine, je pense, dans une sorte de cache. Mais après cet incident, on m'a isolé donc dans un cachot en disant que j'étais le seul à être arrêté judiciairement. Ce qui, entre-temps, d'ailleurs, a été nié parce que hier j'ai vu un avocat qui avait déjà eu un contact avec le procureur du roi et ça, c'est pur mensonge. Mais bon, ça marche de telles intimidations, ça marche parce que un peu de temps après, un autre gendarme est arrivé qui disait que si je continuais à refuser d'être photographié, bon, je devrais passer la nuit dans la cellule et passer devant un juge d'instruction le lendemain, donc samedi matin. Ça a évidemment un peu travaillé dans ma tête, puisque par après, j'ai accepté d'être photographié.
Toute la polémique sur la validité de la carte de presse, finalement, n'a vraiment aucune importance, puisque la carte de presse, on n'est pas obligé de l'avoir du tout pour filmer en rue, pour interviewer des gens, pour faire des activités journalistiques. Donc finalement, c'est aussi une question d'intimidation et c'est une façon de justifier une atteinte à la liberté d'expression.
Oui, c'est ce que je pense. En effet, chaque citoyen peut faire des images dans la rue, peut filmer dans la rue, peut utiliser une caméra vidéo ou un autre appareil, photo, je sais pas. Il y a juste des limitations sur cette liberté. On peut pas filmer, par exemple, des objectifs militaires ou des objectifs stratégiques, comme on dit. Mais pour le reste, on est libre de faire ce genre de prise d'image. Deuxièmement, je pense en effet qu'on est en train de changer un peu les frontières, disons. Quand on exige que quelqu'un montre sa carte de presse ou une carte de presse, là où normalement elle n'est même pas indispensable, comme on dit. Bon, là, on est en train d'écrire une nouvelle loi, je pense, dans la pratique, sans que cette loi existe sur papier, a été votée par le Parlement, a passé toute cette procédure parlementaire. Et c'est ça la pratique de la police et de la gendarmerie à ce jour, et depuis quelque temps d'ailleurs. Donc on est en train, en effet, d'intimider les gens. C'est très important de s'opposer à cette pratique, je pense, parce que moi, déjà avec Indie Media, le collectif qu'on est ici, on réclame justement ce droit de pouvoir filmer, photographier, écrire, faire des comptes rendus, des reportages. Et on le réclame pas pour des professionnels, mais pour tout le monde. Puisqu'on dit que tout le monde peut être témoin et peut être journaliste et peut faire des comptes rendus d'incidents ou d'événements.
Pour tous ces motifs, tu as décidé de porter plainte?
Oui, enfin, je dois tout d'abord dire que l'association des journalistes professionnels a déjà envoyé un communiqué lundi, qui lui aussi proteste vivement contre cet incident et contre ces pratiques. Et le secrétaire de l'association des journalistes a dit que si lui, il était à ma place, lui aussi, il porterait plainte. Donc hier, j'ai vu un avocat et on s'est mis d'accord que lui, il va porter plainte demain, jeudi. En disant que, enfin de sa part, donc en disant que ce genre de pratique, c'est tout à fait inacceptable. Et lui, de nouveau, il s'est référé au fait de juin 2000, avec le championnat de football ici à Bruxelles. parce qu'il en a parlé encore avec des policiers qui eux-mêmes avouent que les robocops bruxellois se sont comportés comme des bêtes et que si on s'oppose pas à ça, bon, ça va continuer à se répandre.
Malgré tout ça, ton avocate a dit qu'il n'y avait pas trop d'illusions à se faire sur l'issue de la plainte.
Mais tout d'abord, ça sera une plainte avec, mais là je ne connais pas le mot en français, Bürgerliche
Constitution de partie civile.
Pachtesterling. Oui. Apparemment, c'est tout à fait nécessaire parce que si on ne suit pas cette procédure et on fait une simple plainte, on risque de devoir classer le dossier immédiatement dès que la plainte est là. Donc, pour déjà passer devant un juge qui va juger cet incident et le comportement des policiers, il faut suivre une autre procédure, donc avec constitution de partie civile. Ça coûte 5 000 balles, donc c'est pas abordable pour tout le monde, je pense déjà. Mais c'est l'unique façon d'avoir au moins la garantie qu'un juge va s'exprimer. D'après l'avocat, ça pourrait se faire au mois de septembre ou octobre, donc c'est pas immédiatement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, vous ne devez pas vous faire des illusions. Le juge va tout simplement faire un petit sermon pour les policiers, et puis ça sera tout. Donc, il ne faut pas compter sur une indemnisation, chose de ce genre.
Mais le but, c'est quand même une certaine jurisprudence de liberté d'expression.
Oui, mais à quoi ça sert, je sais pas. Donc, ça sera uniquement pour les 4 ou 5 gendarmes qui ont été impliqués. Et tout le reste de la police fédérale, bon, elle continue à vivre dans son petit univers, je pense.
Manque de bol pour les autorités, Raph Kuster, c'est non seulement journaliste professionnel, mais il est également membre du conseil d'administration de la branche flamande de l'AGJPB, l'association des journalistes professionnels. Son communiqué, dont parlait Raph, a été publié ce mardi dans The Standard. Dans ce communiqué, l'association proteste contre le traitement brutal réservé à un journaliste dans l'exercice de ses fonctions et contre la confiscation de son matériel, qui n'a d'ailleurs toujours pas été restitué. De plus, le communiqué souligne que la question de la carte de presse ne change strictement rien à l'affaire. Dans la presse, cette action a connu un traitement très divers. De Morgan, pour une fois, est complètement à côté de la plaque et reproduit fidèlement la version de la porte-parole de Van de la Noot, qui reproduisait sans doute elle-même la version de la gendarmerie. Selon De Morgan, à l'ouverture des bureaux du ministère, l'un des activistes s'est présenté à la réception, carte de presse et caméra à la main, en se faisant passer pour un journaliste. C'est dans son sillage que les membres du collectif se sont frayés un passage vers les bureaux du ministère. L'allusion à Raph Kusters est évidente, mais tout à fait fantaisiste, puisque Raph n'est arrivé sur les lieux qu'après le début de l'action. Du coup, on a du mal à croire le reste du récit qui fait état de comportements violents, d'armoires et de bureaux détruits, etc. À en croire la version de la porte-parole de Van de la Noot, on aurait l'impression qu'il s'agissait d'un commando terroriste. La Libre Belgique, pour sa part, est tout à fait lapidaire, juste une petite brève. Alors que De Morgan avait au moins pris la peine de citer un membre du collectif, la seule citation qu'on retrouve dans la Libre est du procureur du roi, qui a déclaré « La justice ne se rend pas dans la rue, ni le procès du Rwanda, ni celui de Semira Adamou ». La brève de la Libre se conclut en précisant que les manifestants ont été entendus par la police. Un euphémisme pour dire qu'ils ont été emmenés au poste pour interrogatoire pendant plusieurs heures. Pour une fois, c'est le soir qu'il fallait lire pour obtenir une information équilibrée dans un article signé Martine van de Meulebroek. Outre tout ce que je vous ai déjà expliqué, l'article souligne le contraste entre la légèreté des poursuites contre les responsables de la mort de Semira Adamou et le traitement que subissent ceux qui osent s'insurger contre les expulsions et les centres fermés. 18 membres du collectif sont poursuivis sous 22 chefs d'inculpation, rappelle Martine van de Meulebroek. Justement, devant cette situation délicate pour les membres du collectif et devant ce contraste choquant, un comité de soutien aux inculpés du collectif contre les expulsions a été mis en place et présenté à la presse ce lundi. Une pétition de soutien circule déjà sur Internet. Vous trouverez d'ailleurs un lien vers cette pétition sur le site d'Alter Echo. Un bon millier de personnes de tous horizons ont déjà signé la pétition et les signatures continuent d'affluer. Apparemment, la mobilisation est forte et notamment dans le monde académique, puisque deux des initiateurs de ce comité sont Matteo Alalouf, professeur de sociologie à l'ULB, et Isabelle Stengers, philosophe des sciences. Matteo Alalouf, que j'ai interviewé hier, nous explique les raisons d'être de ce comité de soutien.
Ce comité s'est monté d'abord parce que 18 personnes se trouvaient sous le coup d'une vingtaine de chefs d'inculpation, de 22 chefs d'inculpation. C'était la première raison. Pourquoi le faire maintenant? Parce que précisément aujourd'hui, le 24 avril, passent devant la Chambre du Conseil les gendarmes qui sont, eux, accusés d'avoir provoqué la mort de Semira Adamou. Et donc, à cette occasion-là, il nous semblait important de rendre ce comité public, parce que précisément au moment où Semira Adamou était morte, le ministre de l'Intérieur, ne s'était pas privé d'accuser le collectif et de dire que c'était parce que les collectifs, contre les expulsions, avaient exercé une pression que les gendarmes poussés à bout avaient été amenés finalement à utiliser ces méthodes-là. Et cela est particulièrement indécent. C'est particulièrement indécent lorsque l'on sait l'action qui était menée au centre des centres fermés, l'action qui était menée par les personnes qui étaient expulsées, la résistance qui manifestait et qui manifeste toujours à l'égard des expulsions. C'est véritablement indécent de poser le problème en ces termes-là. Et nous voulions qu'en ce qui concerne la mort de Semira Adamou, que une justice complète soit faite, c'est-à-dire non seulement que la responsabilité policière soit mise en lumière, mais également la responsabilité politique, et que d'autre part, on cesse des poursuites contre des personnes qui n'ont fait jusqu'ici, qui n'ont développé jusqu'ici qu'une action légitime, qui ont même pris en charge des personnes qui étaient relâchées des centres fermés, de manière à ce qu'elles ne tombent pas dans des réseaux mafieux, dans des réseaux de marchands d'hommes.
Pour l'instant, les personnes les plus visibles de ce comité, c'est notamment vous et Isabelle Stengers aussi. Autrement dit, le monde académique, c'est la première fois qu'on voit le monde académique aux côtés de ce genre de collectif, non?
Non, pas vraiment. Plusieurs fois, lorsque ces problèmes s'étaient posés d'ailleurs, il y a eu une mobilisation très forte du monde académique. Les différents recteurs, par exemple, s'étaient joints à un manifeste du même type, ainsi que d'ailleurs les autorités religieuses du pays, pour prendre des milieux qui ne sont pas coutumiers de ce genre de choses. Donc c'est normal qu'on retrouve ici de nouveau beaucoup de professeurs d'université, également les autres composantes du monde académique qui se trouvent mobilisées, d'autant plus que pas mal d'étudiants se trouve parmi les inculpés, mais ce n'est pas que cela qui le justifie. Globalement, l'accueil au manifeste à l'appel a été très très bon, puisque avant même de le rendre public, nous avions dépassé le millier d'adhésions. Donc ce manifeste a eu un très très large accueil, en particulier dans les milieux syndicaux, dans les milieux politiques, dans les milieux académiques et dans les milieux, je dirais, de soutien moral, sans parler encore de tous les milieux associatifs, des citoyens qui se sont spontanément ralliés à cet appel.
Vos objectifs concrets sont assez ambitieux, non?
Nos objectifs concrets sont plutôt limités. Ça consiste d'abord à essayer de soutenir les inculpés et de contribuer notamment à leur trouver les moyens matériels, parce que la défense en justice, ça coûte cher, et donc d'essayer de rassembler les sous nécessaires pour qu'ils puissent assurer leur défense.
Mais vous parlez aussi et surtout de l'arrêt des poursuites contre les militants et de la condamnation des vrais responsables.
Celui-ci, c'est évidemment, ça c'est le motif politique qui nous réunit, qui est de dire, il faut essayer de faire en sorte que les responsables de la mort de Semira Adamou soient punis. Et ce que nous voulons, bien sûr, en fin de course, c'est qu'on arrête des poursuites qui sont vraiment inacceptables, inadmissibles, dont les fondements sont dérisoires. Et il faudrait vraiment aujourd'hui se rendre compte de cela et d'arrêter ces poursuites. Mais cela ne me semblait pas tellement ambitieux. Par contre, ce que nous voudrions aussi faire, et qui au niveau de l'action n'est peut-être pas simple, c'est d'élargir cette discussion au plan européen. Parce que notre appel a été mis sur un site internet traduit en plusieurs langues, et cela a entraîné immédiatement des connexions avec d'autres pays. Des situations semblables existent, et nous le savons bien. En France, des grèves de la faim sont actuellement en cours en France sur le même type de questions. De même, dans dans d'autres pays européens, la situation pour des pays très exposés d'ailleurs, comme l'Espagne et l'Italie, sont d'une grande importance. Comme la Belgique exercera la présidence de l'Union européenne très prochainement, il nous semblait peut-être intéressant d'essayer de prendre une initiative pour qu'à cette occasion, nous puissions manifester un certain nombre d'opinions et un certain nombre de propositions à propos de cette manière barbare que l'on a maintenant en Europe de traiter les demandeurs d'asile et les personnes dépourvues de papiers.
Et vu aussi le succès de l'appel du comité, vous pensez à des actions concrètes pour exercer cette pression?
Des actions concrètes, ça dépend de ce qu'on entend par action concrète. Il est clair que le jour où le procès aurait lieu, et il y en a un qui est véritablement en cours aujourd'hui, c'est celui de Pascal Marchand, donc d'un des membres du collectif contre les expulsions. Le jour où des procès auraient lieu, nous sommes décidés à nous mobiliser pour essayer d'exprimer clairement notre point de vue. À ce sujet. Mais en dehors de cela, notre action principale, c'est au niveau de l'information, c'est au niveau de la mobilisation de l'opinion. De ce point de vue, l'appel lui-même est un succès puisque beaucoup de personnes se sont mobilisées autour de cet appel.
À l'occasion de la conférence de presse, j'ai également pu rencontrer les inculpés du collectif. Nous allons écouter Justine qui parle notamment des conséquences d'une telle inculpation et d'une éventuelle condamnation. Mais la parole est d'abord à Daniel Liebman. Lors de la conférence de presse, vous avez beaucoup insisté sur le rôle des médias dans la médiatisation des affaires, des inculpations et aussi de toute la problématique des sans-papiers. Quel est le rôle qu'ont eu les médias, en le voulant ou non, par le passé, et quel est, d'après vous, le rôle qu'ils devraient tenir?
Oui, tout d'abord, là, on est vraiment en live, donc il faut dire aux auditeurs que nous sortons d'une conférence de presse et que pendant cette conférence de presse, une bonne partie, en ce qui me concerne, de mon intervention a porté sur les journalistes. En fait, pour une raison très simple, c'est que je voulais m'adresser aux journalistes de façon directe. Je ne leur demande pas de reproduire, d'une certaine manière, ce que je leur ai dit. C'est plutôt de réfléchir avec nous sur le rôle qu'ils ont joué dans, disons, la question des expulsions et l'affaire Semira Adamou en particulier, et le rôle qu'ils vont devoir jouer ou qu'ils seront amenés à jouer à leur manière dans notre propre procès et de façon générale dans la suite du traitement de ce genre de dossier. Le fond du problème, c'est pas les journalistes. Le fond du problème, c'est évidemment la manière dont le gouvernement souhaite instrumentaliser la presse de façon à la fois à montrer qu'il est très ferme et qu'il expulse, et en même temps de montrer que tout ça se passe d'une façon humaine. Pour que les gens croient ce genre de conneries, il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les journalistes. Ce que je ne dis pas, parce que ce n'est pas mon idée, c'est que les journalistes seraient tous des laquais du pouvoir ou je ne sais pas quoi. Ce que je dis au contraire, c'est que faire leur métier est extrêmement difficile dans ces conditions. Parce que, d'une part, les informations réelles, vérifiées, eh bien, elles n'existent à peu près pas. Il y a des informations officielles qui sont des mensonges, et puis il y a ce que nous ou d'autres, on arrive à faire ressortir comme réalité à partir principalement des témoignages des victimes de cette politique. Alors évidemment, c'est toujours des témoignages non vérifiés et il y a toujours des tas de preuves avec des cachets officiels qui montrent que nous mentons, que nous exagérons, que les gens se sont tapés dessus eux-mêmes, rien que pour embêter les gendarmes, que derrière il y a nous qui faisons ça rien que pour embêter les politiciens, parce qu'on est des irresponsables, etc., etc. Ça, c'est l'idée qui se trouve dans la tête de ceux qui rédigent les rapports officiels. Et puis, il y a les idées qui sont dans le public. Et entre les deux, il y a les journalistes. Et donc, là, il y a une réflexion à entamer. À mon avis, c'est plutôt aux journalistes de l'entamer. C'est-à-dire que nous, on fait notre boulot, on leur dit ce qu'on sait, on leur fait entendre les voix des gens qui nous parlent. Et puis, en avant, eux font leur papier ou leur reportage. Bon, peut-être que le. Hein, il y a eu une petite anecdote là pendant la conférence de presse. Un des journalistes présents a demandé des explications sur ce qu'il appelait les reproches que nous faisons à la presse. C'est pas tellement, comme je l'ai dit, des reproches à la presse, mais je pense qu'il y a une réflexion à entamer ou à reprendre ou à approfondir parmi les professionnels des médias, en particulier sur la politique des étrangers, mais c'est loin d'être le seul dossier, bien entendu, sur comment informer le public, comment savoir et faire savoir ce qui est exact. Et à partir de là, chaque journal, évidemment, reflète une opinion. Nous ne demandons pas, ça c'est quelque chose qui est absurde, personne ne demande aux journalistes de répéter ce que nous leur disons ou de diffuser notre opinion. Mais l'exigence élémentaire, c'est qu'ils vérifient ce qu'ils écrivent et ils ne le font pas toujours et pas tous. Ça, c'était vraiment le point.
Oui, justement, il paraît évident que le pouvoir tente d'instrumentaliser les journalistes, mais on a quand même très souvent l'impression que les journalistes ne font pas beaucoup de problèmes au pouvoir pour se laisser instrumentaliser. C'est là que vous vouliez en venir?
Non, je ne veux en venir nulle part. Je pense réellement que ce débat est un débat professionnel de journalistes. Nous avons déjà suffisamment de discussions parmi nous pour savoir comment nous adresser à la presse. Mais là, bon, il existe des organisations de journalistes. Certaines font vraiment bien leur boulot. Je pense à la GJPB, je pense que ça s'appelle, qui avait édité en son temps. Un petit document, non pas sur cette question-là, mais sur une question proche. Comment parler des étrangers dans les journaux? En fait, comment ne pas être raciste quand on parle de faits ou d'événements où des noms belges sont impliqués en Belgique? Comment être ni insultant, ni paternaliste, etc. En fait, comment se dégager du langage du pouvoir? Parce que quand on parle soi-même et que c'est pas le langage du pouvoir, on n'est pas raciste ou on n'est pas paternaliste, mais dans les journaux, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que la GJPB avait fait un bon travail là-dessus. Pourquoi pas qu'il le refasse sur les questions plus brutales des expulsions et des sans-papiers en général.
Vous avez aussi parlé de la conférence de presse de plusieurs hit-parades. Il y a le hit-parade des inculpés, où vous êtes numéro 3, il me semble.
C'est ça.
Il y a aussi un hit-parade des affaires sur lesquelles s'opère la répression. Il y a notamment, vous avez cité notamment l'affaire Clabecq. Pour vous, ces hit-parades sont représentatifs plus du pouvoir qui réprime dits
Bien
délits
sûr.
que des gens qui sont inculpés.
Ben, c'est les deux, évidemment. Hein. Aucun de nous n'est inculpé pour rien, à tort. Les accusations qui sont faites sont fausses, mais évidemment, les faits réels, à savoir manifestation tel jour, etc., ben, nous y étions. Donc le hit-parade, nous y avons participé, mais ce n'est pas nous qui avons établi ni le contenu des prix, qui sont les inculpations, les chefs d'inculpation, comme on dit, ni l'ordre des inculpations. Et donc, en effet, là, on reconnaît la patte du pouvoir politique. Donc, le hit-parade principal en Belgique, c'est Clabecq number one, collectif number two, et puis number three. Il y en aura d'autres parce que nous savons que à des petits niveaux, toute une série d'associations, de groupes, sans parler du mouvement syndical dans son ensemble, sont en fait sous le collimateur permanent d'agents du ministère de l'Intérieur, de l'une ou l'autre partie de ce qui s'appelle maintenant la police fédérale. On est surveillés et on est nombreux à l'être, y compris des journalistes d'ailleurs.
Ce qu'on remarque quand même, c'est que les avant-derniers de ce hit-parade sont les gendarmes qui sont directement responsables de la mort de Semira Adamou, et les tout derniers du hit-parade, qui ne sont même pas dans les hit-parades des inculpations, sont les ministres qui sont politiquement responsables. Qu'est-ce que ça dénote pour vous?
Mais c'est très clair. Bon, ils sont out du hit-parade. Hein. Le hit-parade, c'est le hit-parade de la contestation et de la répression de celle-ci. Donc, ils en sont out dans la mesure où ils en sont partie prenante activement. Donc, c'est eux qui l'écrivent, quoi, ce hit-parade. Maintenant, c'est évident que l'injustice ici, elle est visible. C'est pas la première fois en Belgique, mais ce sera peut-être plus difficile que dans d'autres situations. L'injustice a été énormément visible pendant toutes les affaires dites du mouvement blanc, où il était tellement clair que les gens dont les fautes, pour ne pas dire plus, puisqu'on n'a jamais pu approfondir la question des protections. Donc les gens dont les fautes, pour ne pas dire plus, ont conduit et aidé à la mort d'enfants, n'ont pas été poursuivis, tandis que le juge Conroth a été destitué de ses fonctions au cœur de l'affaire. Ça a fait sortir des dizaines de milliers de gens dans les rues. Je crois que le citoyen belge moyen sait que les flics ne protègent pas les enfants et les juges protègent des assassins. C'est une évidence qui est à peu près incontestée, sauf par le pouvoir, bien entendu, mais dans la population, ça a fait partie des discussions de café les plus répandues, à juste titre, pendant des mois et des mois. Alors aujourd'hui, ben, on a affaire à quelque chose qui est comparable, bien qu'il ne s'agisse bien entendu pas du même genre d'affaires, mais comparable dans la mesure où, bon, c'est nous qui avons en fait amené la question des expulsions dans l'opinion publique. Personne n'en parlait à part des associations très spécialisées qui, à juste titre, dénonçaient depuis le début des années 90 la terrible dérive que Louis Toback et Johan van de la Notte faisaient subir au droit d'asile dans notre pays. Mais il n'y avait personne pour les entendre. Ça a commencé à être entendu quand nous avons mis les scoops à la télévision, parce que nous aussi, on veut utiliser les médias. Il n'y a pas que le pouvoir qui peut le faire pour faire taire les opinions. Nous, on peut le faire aussi pour réveiller, les consciences. Donc, notre première action visible, c'était d'arrêter un fourgon de l'Office des étrangers, et d'appeler RTL pour, que ça se voie, et surtout pour qu'on voie le jeune homme qui se trouvait détenu dans le fourgon et qui, au moment de son passage d'un fourgon à l'autre, parce que malheureusement pour le conducteur, les pneus avaient été un peu abîmés de sa voiture, donc nous avons dû obliger les gendarmes à faire changer de véhicule pour que la déportation ait bien lieu, chacun son métier, on a pu voir ce jeune homme se débattre et hurler devant les caméras de télévision. C'est un geste qui est malheureusement quotidien à l'aéroport de Zaventem, mais c'était la première fois qu'une caméra de télévision le montrait et que au JT d'RTL à 19h, eh bien, la population belge a pu le voir et un des premiers mensonges qui traîne depuis les années 90 est tombé d'un coup, hein, puisque les ministres de l'Intérieur successifs ont toujours dit que tout ça se passait sans la moindre violence et que les gens acceptent leur expulsion parce qu'ils ont compris qu'ils étaient malvenus dans notre pays de cocagne. Donc là, c'est cassé. Et ça, c'était cassé une fois pour toutes. Évidemment, le meurtre de Semira Adamou, le meurtre légal de Semira Adamou, donc l'application de la circulaire dite du coussin rédigée par Johan van de la Notte, a rendu les choses encore plus visibles. Et cela, ils ne nous le pardonneront pas, mais nous non plus.
Bah, je m'appelle Justine, je suis inculpée dans l'affaire dite Thierry et consorts. Voilà.
Oui, inculpé de quoi et quelle est cette affaire exactement?
Bah, de différents chefs d'inculpation, puisqu'au total, on a inculpé de 22 chefs d'inculpation pour l'ensemble des 18 inculpés. Pour ma part, bah, de différentes choses comme obstruction méchante à la circulation, violence, etc. Donc, en gros, c'est tout le monde la même chose et avec des petites spécificités selon les personnes. Donc, tout ça dans le cadre, bien sûr, des actions qui ont été menées, entre autres par le collectif contre des expulsions lors, avant et après la mort de Semira Mdamou, donc dans la lutte contre les centres fermés et les expulsions.
Moi, quand j'entends des choses comme obstruction méchante à la circulation et violence et tout ça, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit exactement et quels sont les faits concrets vus de ton côté qui te sont reprochés.
Oh, mais quels sont les faits concrets? Je veux dire, il est facile de dire, enfin, de parler simplement des actions qui ont été menées. Donc voilà, ça a été entre autres ce qu'on a appelé nous l'arrêt du fourgon. amenant certaines personnes à l'aéroport de Zaventem. Il existe aussi des autres actions. Donc les actions elles-mêmes, elles sont facilement définissables. Il suffit de retourner dans les archives des médias et on retrouvera les comptes rendus. Mais je ne crois pas que ces faits-là soient vraiment les faits qui nous sont reprochés. Je crois plutôt que c'est la résistance qu'on peut nous mener face à un État qui n'est plus démocratique. Et je crois que c'est ça qu'on nous reproche et c'est pour ça qu'on nous inculpe.
Oui, tout ça cadre dans une criminalisation accrue de toutes sortes de résistances. Apparemment, à la conférence de presse, on a également parlé de Clabec, et je suppose qu'il y en a d'autres.
Ben oui, bien sûr. On est maintenant dans une Europe qui criminalise tout ce qui s'oppose, bien sûr, à l'Europe forteresse, à l'Europe du capital, etc. Donc, que ce soit les gens des forges de Clabec, que ce soit les gens sympathisants du collectif contre les expulsions, que ce soit même des résistances plus intimistes qui ne se voient pas mais qui sont marginalisés et qui sont entravés directement soit par les forces de l'ordre elles-mêmes soit par des pressions dites de société qui empêchent bien sûr une autre forme de pensée et le travail qu'on pourrait mener pour mettre une société nouvelle en place.
Et en clair, vous ne niez pas du tout avoir enfreint certaines lois, mais simplement ces infractions procèdent d'une désobéissance civile nécessaire et d'ailleurs reconnue dans la Charte des droits de l'homme.
Ben oui, bien sûr. Il ne faut pas dire qu'on est, enfin, je veux dire, on n'est pas bête. On sait qu'on a fait des choses dites illégales, mais on ne reconnaît pas l'illégalité dans cette société-ci, c'est-à-dire dans une société qui elle-même fait des choses dites illégales envers des gens qui ne sont pas reconnus. Et le fait même de ne pas reconnaître l'existence de personnes humaines, ça paraît déjà absurde et illégal dans une démocratie. Donc nous ne reconnaissons pas l'illégalité, tout en sachant très bien que nous avons fait des choses dites illégales. On n'est pas bête à ce point-là. Donc.
Mais en fait. La pire illégalité est plus du côté de l'État apparemment que du côté des résistants.
Oui, mais enfin, aller leur faire comprendre, ils le savent très bien, mais ils s'en foutent. Et aussi, je veux dire, eux sont dans leur bon droit et il est beaucoup plus difficile, nous, marginalisés, d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer que nous, on est dans la légalité humaine et pas dans la légalité de loi. Parce que de fait, s'opposer au transport d'une personne expulsée par l'État, c'est illégal, mais il est aussi illégal d'expulser quelqu'un sans motif et avec des contraintes physiques, etc. Donc l'illégalité est bien sûr à l'État, mais il faut encore le prouver. Et étant donné que c'est eux qui ont en gros tout l'appareil de justice à leur solde, il est très difficile pour nous de pouvoir faire entendre notre voix, d'autant plus qu'on est pris et appelé un peu partout comme étant des terroristes, des petits jeunes qui veulent choter dans tout, donc ce qui n'est pas le cas bien sûr.
Pour cette désobéissance civile finalement très humaine, est-ce que vous savez ce que vous risquez ?
Oh ben oui, on risque. Je veux dire, on ne peut pas dire avec certitude ce qu'on risque, mais ce qu'on risque de toute manière, c'est ne fût-ce que le casier judiciaire, et un casier judiciaire rempli, enfin en tout cas avec certaines inculpations et certaines condamnations surtout, veut dire que pour certaines personnes, tout un secteur de carrière est tout à fait exclu. Donc ce qui est un problème, on risque d'être cassé professionnellement, ce qui est déjà énorme pour beaucoup d'entre nous, et cassé humainement de toute manière, puisqu'on est inculpé pour des choses que nous revendiquons, qui sont des droits fondamentaux, et donc on est nié dans notre propre résistance, comme sont niés dans leur propre personnalité tous les gens pour qui on se bat et qui se battent eux-mêmes avec nous.
Il y a de quoi dissuader les gens de résister. Est-ce que c'est une stratégie qui risque de porter ses fruits ?
C'est à vous de le dire et on le verra par la suite. Je crois malheureusement que c'est vrai, puisque quand on parle avec toute personne qu'on rencontre dans la rue, très vite ils disent « Oui, mais enfin, tu vois bien où ça t'a mené toi, tu vois bien où ça mène les autres, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je crois que là, nous, on doit continuer à dire « Écoutez, on doit se battre, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix et on ne peut pas baisser les armes et nos armes ne sont pas des armes aussi grosses que celles que la gendarmerie met contre nous. Je crois que oui, il faut continuer à se battre, même si on essaye de nous dire que les conséquences seront très lourdes. Et de fait, pour une personne qui voudrait être enseignant, par exemple, ce sont des conséquences très lourdes que de ne plus pouvoir enseigner. Et de toute manière, socialement, c'est aussi des conséquences difficiles à assumer, puisque marginalisée de cette manière-là, la résistance ne peut plus se faire, ou en tout cas, il faut faut se cacher des familles, ne pas dire qu'on fait ceci ou qu'on fait cela, parce que de toute manière, on est désapprouvé, non pas parce que l'action elle-même est désapprouvée ou parce que notre idéal est désapprouvé, mais surtout parce que les conséquences qui pourraient en résulter sont grandes.
Le soutien à la résistance et la poursuite de la résistance sont évidemment les enjeux du comité de soutien qui a été présenté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de se sentir soutenu par une frange aussi large de la population ?
Mais ça fait du bien, mais je crois aussi que malheureusement, ce n'est pas non plus une frange aussi large de la population.
Mais représentative quand même.
Bien sûr, elle est représentative, mais de nouveau, elle est représentative d'un certain milieu dit socioculturel, milieu intellectuel dit de gauche. Et donc, c'est toujours difficile aussi parce qu'on est quand même toujours dans un espèce de ghetto intellectuel, artistique, etc. Et que donc, il est très difficile de parler avec la femme qui reste dans sa maison, avec l'ouvrier qui ne voit pas d'autres personnes que ses collègues et qui entend un discours donc ambiant qui est celui de criminaliser à la fois les sans-papiers, à la fois les gens qui les aident et toute autre forme de résistance, qu'elles soient même les formes de résistance que eux, ouvriers, pourraient, ou elles, femmes de ménage ou femmes au foyer, pourraient entreprendre dans leur propre milieu.
C'est un peu tout le problème aussi de la médiatisation correcte.
Mais bien sûr, mais enfin ça, ce n'est pas à nous de le changer. Enfin, on veut essayer que ça change, mais c'est aux journalistes de se dire battons-nous. Et je crois que la désobéissance civile est là aussi. C'est aussi aux journalistes qui font partie de la population comme tout le monde de se dire nous allons désobéir. Nous désobéissons chaque jour parce que nous voulons que le peuple soit informé. Alors c'est des grands mots, le peuple soit informé, etc. Hein. Mais je crois que c'est très important parce que malheureusement, dans la surmédiatisation du monde actuel, les gens ou leur télé et si on leur dit quelque chose qui n'a pas été dit à la télé, ils nous répondent tout simplement « Ah mais non, à la télé on nous dit le contraire ». Donc là est la grande conséquence du média et que si le média ne dit pas un jour « Nous arrêtons de dire ce qu'on nous dit de dire », ce qui ne veut pas dire non plus que parfois ils ne sont pas victimes eux-mêmes de ces mensonges parce que bien souvent ils ont l'impression de dire la vérité, ils le font en toute bonne foi, mais ils n'ont pas l'information réelle. Donc bien sûr là il faut aussi travailler.
Vous l'avez entendu, les militants du collectif sont inculpés de choses parfois originales comme entrave méchante à la circulation ou menace par geste, chef d'inculpation qui reflète des futilités mais qui sont poursuivis très promptement et sévèrement. Certains de ces chefs d'inculpation datent d'ailleurs de la répression du mouvement ouvrier du 19e siècle. Sans vouloir préjuger de leur affaire, on espère que les gendarmes responsables de la mort de Semira Adamou seront jugés avec la même sévérité. Pour les militants du collectif, les preuves concrètes sont extrêmement ténues, mais toutes les accusations sont alourdies, je cite, « par la circonstance que l'action a été commise en bande et par suite d'un concert préalable ». Évidemment, les inculpés revendiquent ces actions et ils ne les regrettent en rien, ce qui ne fait qu'aggraver leur cas aux yeux des autorités. Ils estiment que le procès qu'on leur fait est politique et ils comptent donc opposer une défense politique dans la logique du procès de rupture qui consiste à contester le bien fondé des lois qui sont invoquées pour intenter le procès. En l'occurrence, les militants du collectif tenteront de dénoncer devant le tribunal la politique de détention et d'expulsion des sans-papiers plutôt que de chercher à se disculper de ce qu'on leur reproche. Dans cette logique-là, il est évidemment capital que le procès connaisse un retentissement suffisant dans l'opinion et ce sera l'un des soucis du comité de soutien qui s'est constitué. À ce propos, même constat dans la presse que pour l'action de vendredi dernier chez Van de Lanotte, sauf que la Libre Belgique fait encore mieux. Cette fois-ci, elle parvient même à ne pas dire un seul mot de la constitution du comité de soutien. Juste 3 lignes en page 2 mardi pour dire que c'était ce jour-là que les gendarmes responsables passaient en chambre du conseil. Comité de soutien connaît pas. Une fois de plus, c'était beaucoup mieux dans le soir, même si Bénédicte Vasse, qui n'était pas présente à la conférence de presse, s'est contentée de reproduire des extraits du dossier de presse avec une petite erreur factuelle ici ou là. Mais au moins, le soir n'a pas choisi d'ignorer le sujet, comme la Libre Belgique. Le prochain rendez-vous du collectif contre les expulsions aura donc lieu le 4 mai, soit vendredi en 8, pour le procès de Pascal Marchand. On apprendra à cette occasion si cette affaire sera jugée conjointement avec les autres, comme le demandent les avocats de la défense. Et je vous tiendrai bien entendu au courant du déroulement de tous ces procès.
Les hommes aux quatre coins de la terre, j'entends le glas qui sonne, c'est des prières. Y'a du sang dans le caniveau, y'a de la cervelle sur les murs, à la télé ça fait crado, ça fait longtemps que ça dure. Mais toi, dans ton paradis, tout petit. Tu te prends la tête et tu t'ennuies. Tu sais même pas quel goût ça a la vie là-bas. Bon, plus qu'un os à ronger, la fatalité. Garde mal donne pour tous ceux qui n'ont rien à bouffer. Alors qu'ici on en jette des tonnes, moi ça me fait gerber. Mais toi, dans ton paradis tout petit, tu te prends la tête et tu t'ennuies. Tu sais même pas quel goût ça a la vie là-bas. Trois étoiles sur un col, une étoile rouge pour tous. Y'a plus de bonne étoile. Là-bas dans les ghettos, y'en a qui se font la peau à grands coups de pétoir pour juste un bout de trottoir. Là-bas dans les stades, c'est l'arbitre qui a un gros flingue et c'est carton rouge pour tout le monde. Mets-toi dans ton paradis tout petit. Oh, tu te prends la tête et tu t'ennuies. Tu sais même pas quel goût ça a la vie. Qui meurent de faim. Là-bas dans les rues, y'a des obus qui font leur marché. Un enfant par-ci, un combattant par-là. Un enfant, un combattant, un enfant, un combattant, un enfant, un combattant, un enfant. Un combattant, un enfant, un sniper à sa fenêtre, un enculé. Un enfant, un combattant, un enfant, un combattant.
Une fois n'est pas coutume, on a appris cette semaine une bonne nouvelle. Les sociétés pharmaceutiques ont retiré leur plainte contre l'État sud-africain. Je vous avais parlé de cette affaire il y a environ 2 mois et elle a été largement commentée dans les médias. En résumé, une coalition de multinationales pharmaceutiques attaquait en justice l'État sud-africain pour s'opposer à une loi de 1997 qui permettait à ce pays, qui est le plus durement touché par le sida, d'importer des médicaments génériques pour prolonger de 10 ou 20 ans la vie de ses 4 millions de séropositifs, soit une personne sur 9. Les médicaments génériques, ce sont ces copies de médicaments de marque qui ne coûtent qu'une fraction du prix des originaux, puisque les originaux incluent dans leur prix l'amortissement du coût de la recherche, tandis que les génériques ne coûtent que le prix de leur fabrication. Seulement, les médicaments de marque sont protégés par des brevets pendant 20 ans et il est interdit d'en faire des copies génériques. C'était donc un peu le combat entre l'argent des multinationales et la santé publique en Afrique du Sud. Seulement, l'annonce de ce procès a tellement indigné l'opinion publique mondiale qui s'est mobilisée de façon massive que les laboratoires pharmaceutiques ont cédé à la pression et ont retiré leur plainte. Le monde entier, ou presque, a jubilé. Seuls les marchés financiers ont fait la moue et le cours des actions des sociétés concernées a connu une baisse. On s'en serait douté. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment nos journaux ont parlé de ce retournement. La Libre Belgique ménage la chèvre et le chou, comme à son habitude. Dans son édito consacré à ce sujet, Laurence Dardenne affirme que tout le monde a gagné. Le gouvernement de Pretoria, bien entendu, les séropositifs et les malades du sida à terme seulement, mais aussi les multinationales. D'une part, parce qu'elles ont redoré leur blason qui était en passe d'être terni. À mon avis, elles mettront encore longtemps à le redorer pour de bon et elles n'ont rien gagné de ce côté-là, mais passons. Mais les multinationales ont gagné aussi et surtout, d'après la Libre, parce qu'elles se sont bien assurées auprès du gouvernement sud-africain que la loi sur les médicaments génériques ne contreviendrait pas aux règles internationales sur les brevets. Ce qui est curieux, c'est que dans l'article qu'elles signent à l'intérieur du journal, la même Laurence Dardenne dit exactement le contraire. Elle écrit que l'industrie pharmaceutique a dû battre en retraite sans gloire et essaye simplement de sauver les pots cassés en tentant de présenter l'abandon des poursuites sous le meilleur jour possible. En effet, explique Laurence Dardenne, la promesse du gouvernement de respecter les règles internationales était une évidence, puisque même les lois de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, autorisent de transgresser les règles de la propriété intellectuelle en cas d'urgence nationale, et l'épidémie de sida en est incontestablement une. Donc dans l'article, les laboratoires ont perdu et dans l'édito, tout le monde a gagné. La Libre n'aime décidément pas prendre position. Dans Le Soir, c'est plus tranché. Véronique Kiesel estime que les grands laboratoires avaient fait preuve d'une arrogance choquante et que le résultat avait été un désastre absolu en termes de relations publiques. Elle nous livre ensuite une petite réflexion intéressante sur la mondialisation que je vous cite. Au-delà de ce cas précis, cette affaire fait la preuve qu'il existe une double mondialisation. La première favorise les échanges économiques, mais aussi l'imposition d'un modèle qui vise avant tout à rendre les actionnaires heureux, bien plus que les consommateurs ou les travailleurs. L'autre mondialisation, c'est celle qui prône le respect humain. Pour Véronique Kiesel, cette autre mondialisation est une utopie qui a pris un petit parfum de réalité avec la défaite des sociétés pharmaceutiques. Un discours correct et relativement tranché pour un quotidien frileux comme Le Soir, mais un discours qu'on ne retrouve pas, hélas, à propos de sujets similaires mais beaucoup plus vastes, comme le sommet des Amériques qui a eu lieu le week-end dernier dans la ville de Québec. Pour être bref, le sommet des Amériques avait pour but de prendre des engagements fermes en vue de l'institution de la zone de libre-échange des Amériques, une espèce de grand marché commun qui engloberait tous les pays du continent américain, de l'Alaska à la Terre de Feu, mais sans passer par Cuba, le seul exclu du club. Le sommet des Amériques s'est déroulé en gros comme tous les grands sommets mondialisants depuis Seattle, à savoir un sommet officiel complètement barricadé sous haute surveillance policière, un contre-sommet de contestation haute en couleur, José Bové entouré d'une meute de journalistes, un cortège de 30 000 manifestants pacifiques, plus de 400 arrestations et quelques dizaines de blessés. Bref, un sommet. La fameuse zone de libre-échange qui doit voir le jour au plus tard fin 2005 a de quoi inquiéter. D'abord, c'est l'alliance d'un géant avec une bande de nains, puisque l'accord concerne 34 pays et que les États-Unis produisent à eux seuls les trois quarts des richesses de tout cet ensemble. Les 30 plus petits pays ne représentent que 8% du produit intérieur brut total de la zone. Les nains ont donc de quoi être inquiets. Ensuite, tout comme en Europe, c'est la libre circulation des biens qui est visée. Comme le note euphémiquement Philippe Régnier dans Le Soir, la circulation des personnes devrait être moins libre que celle des marchandises. On retrouve aussi des clauses qui rappellent feu l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements qui avait été négocié en secret, puis découvert par hasard par l'opinion publique, et enfin retiré devant le tollé mondial que cela avait occasionné. En gros, l'AMI donnait aux multinationales un pouvoir équivalent et parfois même supérieur à celui des États en matière d'investissement. Enfin, on nous présente cette zone de libre-échange américaine comme un laboratoire pour une future zone de libre-échange mondiale sous l'égide de l'OMC. Bref, on nage en plein dans la mondialisation inquiétante. Pourtant, sur ce coup-là, Le Soir ne dénonce soudain plus rien. Plus de réflexion sur la double mondialisation, plus d'éditorial même. Juste un petit commentaire éditorialisant de Nathalie Mathéyem qui parle principalement de George W. Bush et de son attitude par rapport au sommet des Amériques et à la zone de libre-échange. Apparemment, Bush aurait même fait une concession sur la protection des travailleurs et de l'environnement. Cette concession, écrit Nathalie Mathéyem, ne désarme cependant pas les opposants américains qui notent que le projet donnerait des droits accrus aux entreprises face aux États et que les premiers bénéficiaires du futur grand marché seront les multinationales. Donc, on note les arguments des uns, ceux des autres, et à vous de vous débrouiller avec. Apparemment, il faut vraiment que les multinationales et le pouvoir économique fassent un immense faux pas, comme en Afrique du Sud, pour que cela inquiète Le Soir et qu'ils songent à les critiquer. Cela dit, l'édito de la Libre sur le même sujet était encore bien pire, tellement ruisselant de vœux pieux et de bons sentiments qu'on se serait cru à la messe. Pour résumer, Yves Cavalier est très enthousiaste. Pour lui, ce projet de grand marché américain a quelque chose de grand, d'ambitieux et de beau à la fois. Lorsqu'il le compare à l'Europe, il s'extasie sur l'euro en affirmant que c'est le meilleur moyen de souligner les inégalités et de les combattre. Parce que malgré son enthousiasme, Yves Cavalier a entendu la voix de la contestation. Il tient donc à préciser que l'économie et la monnaie ne sont qu'un moyen et qu'il faut aussi combattre la pauvreté parce qu'elle est le plus grand ennemi de la démocratie. Il n'a visiblement pas compris que le projet de la zone de libre-échange des Amériques n'a rien à voir avec la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités et qu'elle en est même l'antithèse. La conclusion de son édito le prouve, je cite: même si le rêve d'une Amérique unie du nord au sud est merveilleux, écrit-il, on ne peut l'appeler de ses voeux que si des garde-fous empêchent la dérive des continents. Un seul mot me vient à l'esprit pour conclure. Amen. Amen, ce sera la conclusion de cette édition d'Alter Echo. Je vous révèle d'abord le titre de la chanson que vous avez entendue. Il n'y en a eu qu'une cette semaine, c'était Yamaldon, chanté par Mano Solo, et ça se trouve sur l'album Les Années Sombres. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée vendredi à 14h sur les mêmes ondes de campus, que vous pouvez également la retrouver sur internet à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Alter Echo. D'ici là, portez-vous bien.